Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. Je me suis posé cette question. Est-ce que j'ai dans ma vie vraiment les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Ou est-ce que dans ma vie, mon intérêt personnel passe avant tout? Est-ce que je suis de ceux qui cherchent leur propre intérêt? Est-ce que parfois dans mon comportement, dans mes attitudes, dans mes pensées, je ne vais pas au-delà de ce que m'enseigne la parole de Dieu? Alors je vous invite ce matin à lire dans la parole de Dieu une exhortation de Paul, de l'apôtre Paul. Cette exhortation est une mise en garde contre une attitude d'orgueil et la recherche d'une attitude plutôt d'humilité. Alors je vous invite à lire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, et nous lirons du verset 6 à 17. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6 à 17. Alors je lis dans la version du Semeur. Frères, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollo et de moi pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et qu'ainsi aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place, comme à des condamnés à mort. Car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde, est traité comme le rebut de l'humanité. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 mètres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de la vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Alors ce passage que nous venons de lire est fort, puissant. Ce passage se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, et Paul avait l'habitude d'écrire des lettres pour donner de ses nouvelles, pour enseigner, pour exhorter, et aussi pour redresser les chrétiens des églises auxquelles il adressait ses lettres. Et Paul connaît bien cette église de Corinthe, puisque c'est lui qui l'a fondée 4 ans plus tôt, lors de son deuxième voyage missionnaire aux alentours de 50-52 après Jésus-Christ. Et donc, il se retrouve 4 ans plus tard, au terme d'un long voyage, d'un long séjour à Éphèse, lors de son 3e voyage missionnaire, à écrire cette lettre. Et l'occasion de cette lettre qu'il écrit aux chrétiens de Corinthe est double. Il reçoit de mauvaises nouvelles de l'Église. Des querelles et des clans se sont formés dans l'Église, certains se disant pour un apôtre, d'autres pour un autre, et l'Église, certains s'enflent d'orgueil. De plus, l'Église de Corinthe, elle, interroge Paul au travers d'une lettre sur divers problèmes dans l'Église. Problèmes sur le mariage, sur la liberté chrétienne, sur le comportement pendant le culte, des questions aussi sur les dons spirituels. Paul va donc dans sa lettre devoir redresser par son enseignement la situation dans l'Église et répondre aux questions des Corinthiens. Et c'est ce qu'il va s'attacher à faire. Et un des aspects que Paul souhaite redresser tout de suite, c'est les divisions dans l'Église de Corinthe. Et il leur fait savoir. Il leur dit au premier chapitre, « Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire parmi vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis pour Paul, moi pour Apollo, moi pour Pierre, ou encore moi pour Christ. » Le constat de Paul est clair dans ce début de lettre. Les chrétiens de l'Église ont laissé s'introduire la division parmi eux et ont perdu de vue ce qu'il dit, la même conviction qui les animait, la même manière de penser, l'unité en Jésus-Christ. Et cette division se manifeste par le fait que certains dans l'Église prennent le parti pour un apôtre ou pour un autre dirigeant de l'Église. Ils le glorifient, ils les glorifient, ils se jalousent, se disputent et donc se divisent. Et Paul va s'attacher dans les 2 chapitres qui suivent à remettre les choses en place. Et remettre les choses en place, c'est rappeler quels sont le rôle de ces serviteurs qu'il glorifie. Les serviteurs de Dieu, et comment lui et Apollo s'inscrivent dans ce rôle de serviteurs. Et il leur dit de les regarder comme des serviteurs de Dieu et pas au-delà. En ce qui nous concerne, dit Paul, Apollo et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demandons-nous à des intendants ? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Paul leur rappelle avec insistance qui ils sont, des serviteurs de Dieu, et quelle est leur tâche ? Annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alors après avoir remis, je pourrais dire, les choses à leur place, Paul donne un nom au problème des Corinthiens. Un mot qui qualifie ce problème, c'est l'orgueil. Il leur dit au début du passage qu'ainsi aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Vous savez, l'orgueil peut revêtir bien des aspects. Et un aspect particulier de l'orgueil, c'est d'avoir une trop haute opinion de soi, être rempli de vaines certitudes pour soi ou pour d'autres, et il nous fait perdre de vue la réalité. Il la pervertit et entraîne une fausse idée de la situation. Chacun ici, dans l'église de Corinthe, par ses positions, faisait valoir son point de vue, ses connaissances et sa sagesse même. Et à cause de leur orgueil, ils ont commencé à se jalouser, à se diviser, et ont manqué de respect envers ceux qu'ils opposaient. En effet, comme le dit Paul, prendre parti pour l'un contre l'autre, c'est prendre parti de l'un contre l'autre. C'est effectivement monter quelqu'un contre un autre. Et cela entraîne la division. Paul rappelle aux chrétiens de l'église de Rome, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Revêtir des sentiments modestes. Paul encourage alors les Corinthiens à appliquer cela pour leur propre vie. En prenant son exemple et l'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ, Paul souhaite que les chrétiens de l'Église apprennent à leur exemple à appliquer cette règle qui leur demande ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et comme il est dit dans d'autres traductions, il les encourage à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit. Et cette règle exhorte les Corinthiens à revêtir des pensées modestes qui restent conformes à la réalité. La réalité de l'exemple des serviteurs de Dieu, à la réalité de la parole de Dieu. Paul leur dit finalement, au début de ce passage, votre attitude n'est pas digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Et quand je considère l'attitude des Corinthiens, de cette église, de mes frères et sœurs, quand je regarde de plus près, je me rends compte que bien souvent, j'agis de la même manière dans ma vie. Finalement, les Corinthiens sont pas si différents de moi. Alors, je ne vis pas forcément les mêmes problèmes que les problèmes qu'ils vivaient. Mais le problème de fond qu'il y a dans ma vie et dans la vie de beaucoup aussi, c'est l'orgueil. Bien souvent, mes pensées, mon attitude, mes paroles vont au-delà de ce que m'enseigne la parole de Dieu. Bien souvent, j'ai des pensées et des paroles qui vont bien au-delà. Est-ce que moi aussi, dans ma vie, je ne vais pas au-delà de ce qui est écrit, comme dit Paul ? Est-ce que par mon comportement, par mes attitudes, par mes prises de position, par mes paroles, je ne crée pas aussi dans ma vie des situations d'excès qui me font perdre de vue l'unité et la paix que Dieu souhaite pour ma vie ? Mon orgueil fait que bien souvent mon intérêt personnel passe avant tout. Alors si on regarde notre vie, que ce soit dans notre couple, pour ceux qui sont mariés, que ce soit dans notre famille, les gens proches qui nous entourent, mes amis, dans notre travail ou bien même avec les gens que je ne connais pas, bien souvent si on y regarde de plus près, notre intérêt personnel passe avant tout. Notre propre discernement, notre propre sagesse, on veut absolument la faire passer coûte que coûte, au risque de créer des divisions et des souffrances, sans nous en rendre compte. L'orgueil a cette capacité de masquer la considération que nous devons avoir pour les autres. Il a cette capacité de masquer la réalité au risque de blesser et de diviser. L'orgueil qu'avaient les Corinthiens les a amenés à la jalousie et à la division. Paul leur dit, « En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes ? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine ?» En se laissant dominer par l'orgueil dans leurs pensées, en me laissant dominer par mon orgueil dans mes pensées, il risque et je risque de perdre la bénédiction que Dieu veut dans ma vie. Et l'église de Corinthe risquait de perdre la bénédiction qu'il y avait pour cette église. Et cette bénédiction, c'est laquelle ? C'est d'avoir eu Paul, l'apôtre Paul pour apôtre, annonçant la parole de Jésus-Christ à un grand nombre. Ce grand nombre qui, par son témoignage, comme il le dit, est né en Jésus-Christ. Ce grand nombre qui ensuite ont eu Apollo comme enseignant, qui lui-même participait à affermir les croyants. Et qui étaient Paul et Apollo ? Des serviteurs de Jésus-Christ complémentaires. Cette complémentarité était bien évidemment une bénédiction pour l'Église et était aussi dans le plan de Dieu. Et nous voyons que cette complémentarité était une richesse pour l'Église quand Paul leur dit « Après tout, qui sont Apollo et Paul ? Ce sont des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Chacun accomplit sa tâche particulière que Dieu a confiée. Et nous voyons bien, au travers de l'attitude des Corinthiens, en glorifiant l'un plus qu'un autre, le danger, c'était de séparer celui qui plante de celui qui arrose. Et si on divise celui qui plante de celui qui arrose, comment Dieu peut faire croître ? Comment est-ce que Dieu peut faire croître une église qui est divisée en deux ? Les chrétiens de l'église de Corinthe ont laissé de côté cela et ont préféré s'affronter au risque de perdre de vue l'essentiel, l'unité en Jésus-Christ. Eh bien, je crois que dans notre vie aussi, nous pouvons aussi perdre de vue des bénédictions et passer à côté de l'essentiel. Nous avons aussi, à l'image d'une église, chacun et chacune, nous sommes présents ici ce matin, une complémentarité. Une complémentarité dans l'église, ici, mais aussi une complémentarité dans notre couple. Nous avons aussi une complémentarité dans notre travail. Qui peut se vanter de devoir travailler seul sans avoir besoin des autres ? Nous avons aussi une complémentarité dans notre famille au sens large. Nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, nous avons tous une place. Et dans cette place, nous sommes unis les uns aux autres. Et bien souvent, l'orgueil peut nous faire perdre de vue la paix entre tous. Combien de fois on s'affronte dans notre couple, dans notre travail, dans notre famille, avec nos amis, entre nos frères et sœurs. Est-ce qu'on s'affronte pour de bonnes raisons ? Est-ce que l'on ne va pas au-delà de ce que nous enseigne la parole de Dieu par des attitudes qui sont plutôt dictées par notre orgueil ? On s'affronte et on croit qu'en s'affrontant, on va faire plier l'autre. Parce que faire plier l'autre, c'est gage de bon droit. Si j'obtiens une satisfaction personnelle à réussir à faire plier l'autre, c'est que je suis dans mon bon droit. Mais est-ce que c'est cela que nous devons rechercher ? Est-ce que cette satisfaction personnelle, basée sur une fausse sagesse, un faux discernement, produit finalement la paix que nous avons besoin ? Est-ce qu'il produit la paix et est-ce que surtout, il nous permet de garder l'unité entre nous ? Mais dans notre passage, nous voyons que non. Non seulement l'orgueil n'apportera pas la paix, il n'apportera pas la paix dans notre cœur, mais il apportera souvent la division et la souffrance. Paul condamne l'attitude d'orgueil de l'Église. Il ne le cache pas. Cet orgueil qui fait perdre l'intérêt que j'ai pour mon frère, pour ma sœur. Il fait perdre de vue de cela, il condamne cela parce qu'il fait perdre aussi de vue autre chose, le message de l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul dit donc que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse du monde est une folie devant Dieu. On s'abuse soi-même. Et ce que nous pensons est vain et n'apporte rien. Paul va mettre alors les chrétiens de l'Église devant la réalité de leur excès. Il va les mettre face à leurs propres pensées. Il leur dit, mais pourquoi agissez-vous ainsi ? Qu'avez-vous à faire valoir ? Il leur dit finalement, tout ce que vous l'avez reçu de Jésus-Christ. Pourquoi vous en vanter ? Pourquoi avoir une attitude d'orgueil ? Jésus a tout accompli pour vous. Il a fait de celui qui place sa confiance en lui une nouvelle créature. Il les a appelés ses enfants. Il a fait d'eux des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, afin d'être glorifiés en lui. Et Paul dit même, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Alors quand on regarde tout ça, mais de quoi avons-nous besoin de plus ? Qu'est-ce que nous avons besoin de faire valoir dans notre vie? Si nous nous reconnaissons de Jésus-Christ, et si nous reconnaissons ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, de quoi avons-nous besoin de plus? Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu, dit Paul. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture, « Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. » S'il y a quelque fierté à avoir dans notre monde, c'est d'être fier d'appartenir au Seigneur. Alors je pense que parfois, comme les Corinthiens, nous pouvons perdre de vue ce que Dieu a accompli dans notre vie. On veut tellement faire prévaloir notre intérêt, notre propre sagesse, qu'on fait perdre de vue combien Dieu nous a arrachés de la mort à laquelle nous étions destinés. Alors quelle attitude faut-il avoir dans notre vie? Eh bien, Paul va exhorter les chrétiens de l'église de Corinthe à avoir une attitude qui est à l'opposé de leur pensée actuelle. Et pour cela, Paul va s'attacher dans les versets qui suivent, à partir du verset 8 et 10, à faire tomber leur raisonnement, en montrant que l'essence de la vie chrétienne n'est pas dans leur pensée actuelle. Il leur dit, frères et sœurs de l'Église, dès à présent vous êtes rassasiés. Déjà vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous, comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. C'est une déclaration un petit peu sur un ton ironique. Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes vous déjà riches, vous avez déjà commencé à régner, êtes-vous certains de cela? Si seulement c'était le cas, nous serions en train de régner avec vous. Et il continue en disant, mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place, comme à des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livré en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous, nous apôtres, à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous, nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif, nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu. Il me semble que Paul secoue de manière assez forte les chrétiens de l'Église. Pour les Corinthiens, nous le savons, être vu comme sage, fort, honoré était important. Il vivait dans une culture où les gens faisaient grand cas de telles choses. Et d'ailleurs, Paul, au début de sa lettre, les salue pour leur connaissance. Mais ce n'est pas le cas de la vie de Paul. Il leur montre avec force le message de la croix. Ce n'est pas être vu comme sage, ce n'est pas être vu comme riche, ce n'est pas être vu comme puissant, ce n'est pas vu comme étant honoré. Le message de la croix, Paul le dit, c'est la folie, la faiblesse, le mépris aux yeux de ceux qu'il n'accepte pas. Et la vie de Paul est à l'image du message de la croix. Est-ce que la vie des Corinthiens à ce moment-là est à l'image du message de la croix? Est-ce que ma vie de tous les jours, à moi, est à l'image du message de la parole de Dieu? À ce moment-là, si la vie en Jésus, c'est une vie d'humilité, de dévouement dans la simplicité, de souffrance parfois, alors en quoi les chrétiens de l'église de Corinthe peuvent-ils s'enorgueillir de ce qu'ils ont? Je crois que Paul va même aller plus loin dans son exhortation pour montrer que non seulement à ce moment-là, les chrétiens de l'église n'y sont pas du tout dans leur pensée, mais aussi dans leurs paroles, ils n'y sont pas du tout. Et il va montrer dans les versets, à partir du verset 12, quelle est la manière de penser qu'il faut avoir. Je vous invite à écouter ces paroles qui sont puissantes, qui peuvent interpeller, mais qui peuvent nous indiquer combien Paul nous invite à suivre cet exemple. Paul dit : nous nous épuisons à travailler de nos propres mains, on nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Paul dit avec une force peu commune comment on le considère, lui et ses compagnons d'œuvre. Il n'y va pas par quatre chemins. Il dit on est considéré comme les déchets du monde et on est traité comme le rebut de l'humanité. Eh bien, malgré cette considération, qu'on n'aura peut-être jamais à devoir faire face dans notre vie, Paul s'est toujours appliqué à être digne de la vocation à laquelle il a été appelé. Ces paroles de Paul ne peuvent pas nous laisser insensibles. Et quand je les lis, aussi difficiles soient-elles à accepter, elles m'interpellent. Dans des situations d'opposition, Paul s'est attaché à l'humilité, en supportant, en bénissant, en répondant par des paroles bienveillantes. Pourtant, Paul ne faisait pas face à des frères et sœurs, comme les chrétiens de l'Église. Il ne faisait pas face à des gens qu'il connaissait, mais vraiment à des personnes qui voulaient du mal. Quelle a été son attitude ? Une attitude d'humilité. Et les Corinthiens, aussi sages soient-ils, Paul leur dit : vous êtes finalement loin d'agir ainsi. Et moi-même, quand je lis ces paroles, je suis loin d'agir ainsi. Malgré tout, lorsque je les lis, je peux comprendre, à la mesure de ma compréhension, je peux comprendre qu'une attitude d'humilité conçoit des fruits qui sont à l'opposé de ceux de l'orgueil. Et donc, l'humilité peut faire tomber bien des différends et laisser à la porte l'opposition à laquelle le diable veut nous soumettre. Il ne faut pas se voiler la face. L'orgueil ne vient pas de Dieu. On veut nous soumettre à une opposition entre nous. On veut nous soumettre à une opposition dans notre couple. On veut nous soumettre bien souvent à une opposition dans notre travail, à une opposition dans la société. Tout ce qui se passe autour de nous tous les jours ne nous invite pas à l'unité, mais à la division. En revêtant comme Paul des sentiments modestes, on voit que s'ouvrent devant nous des perspectives nouvelles, des perspectives qu'on ne connaît pas dans le monde dans lequel on vit. Il n'est pas possible de les trouver. On peut avoir des paroles bienveillantes. Même quand on n'est pas forcément d'accord avec quelqu'un, on peut avoir des paroles bienveillantes. Avoir des paroles bienveillantes, c'est-à-dire prendre en considération l'autre. Mais aussi avoir des paroles bienveillantes, ça veut dire avoir des paroles constructives et qui servent à l'apaisement. Alors que bien souvent, lorsque on n'est pas forcément d'accord avec quelqu'un, on va jusqu'à la confrontation. Et bien souvent, nos paroles dépassent nos pensées. On peut aussi bénir. Ce n'est pas normal de bénir quelqu'un contre qui je suis en opposition. Et bien pourtant, je peux bénir. Je peux demander que cette personne soit bénie. Ce n'est pas parce que je suis en opposition avec quelqu'un que je ne suis pas d'accord avec cette personne. Je ne suis pas obligé de l'écraser coûte que coûte. Je ne suis pas obligé de la faire rentrer dans ma manière de penser. Je peux très bien céder et demander à Dieu qu'elle soit bénie, qu'elle soit au bénéfice de la gloire de Dieu et qu'elle trouve elle aussi la paix dont elle a besoin. Nous pouvons demander l'aide de Dieu afin qu'il nous éclaire. Parce que le problème de l'orgueil dans la vie, c'est que bien souvent, lorsque nous avons une attitude d'orgueil, nous ne sommes même pas capables de la discerner. Et c'est qu'après avoir fait souffrir l'autre, que nous nous rendons compte un peu trop tard que nous l'avons fait souffrir. souffrir. Et je crois que nous pouvons demander à Dieu qu'il nous éclaire et qu'il nous donne la force de refuser que l'orgueil domine sur notre vie. Que nous demandions à Dieu qu'il nous aide à ce que l'opposition, la division ne rentre pas dans notre vie. Et nous pouvons demander à Dieu alors qu'il nous revêtisse des sentiments d'humilité chaque fois que nous en avons besoin. Paul encourage tous les chrétiens à suivre son exemple. Et lorsqu'il dit ces paroles aux chrétiens de l'Église, il les connaît bien. C'est des frères et sœurs. Il ne dit pas cela pour les accabler. Il dit cela justement parce que c'est des, comme il dit, mes enfants bien-aimés. C'est par amour qu'il dit ça. Et il dit, je vous invite à suivre mon exemple. Ce n'est pas parce qu'il est un fameux évangéliste, on pourrait dire, que ce don d'humilité n'est réservé qu'à l'apôtre Paul. Non, il dit, je vous invite à suivre mon exemple. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, dit-il. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Les principes de vie chrétienne, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises, dit Paul. Et vous savez, quand Paul parle de son exemple avec force, lorsqu'il parle de sa souffrance dans son ministère, quand il parle de son humilité, je ne peux pas m'empêcher de voir en arrière-plan, et peut-être que vous voyez aussi en arrière-plan, l'exemple de la vie de Jésus. Et Paul exhorte les Corinthiens donc à considérer les intérêts des autres avant de considérer leur propre intérêt. Et donc de revêtir, comme il l'a fait lui-même, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Car si Paul vit ainsi, c'est parce qu'il a su revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit en Philippiens 2, à partir du verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, à l'image de Jésus-Christ. Quand je regarde ces paroles, je me dis, bien souvent, je ne suis pas à l'image de Jésus-Christ. Bien souvent, je suis loin de revêtir de tels sentiments. Eh bien, nous sommes invités à revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas magnifique de se dire que Dieu a voulu que nous puissions revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Est-ce que vous imaginez? Dieu veut que nous puissions revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je ne sais même pas comment le dire, tellement que c'est merveilleux. Eh bien, je crois que nous pouvons demander à Dieu qu'il nous aide à renoncer à l'orgueil qui nous environne si facilement, qui a si facilement une emprise sur nous et qui nous revêtisse de ces sentiments de Jésus-Christ. Des sentiments modestes, des sentiments qui nous permettent de nous maintenir dans l'unité dans l'Église, l'unité entre frères et sœurs, l'unité dans notre couple, l'unité avec nos amis, l'unité dans notre travail, rechercher la paix.